Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand son temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu.
C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, dit le livre de la Sagesse. Et il continue, ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. C'est le drame de l'homme qui a quitté Dieu. Quitter Dieu, c'est quitter la vie. Quitter la vie, c'est mourir. Le péché, c'est la mort. La mort parce que nous n'avons pas fait confiance à Dieu. Et le péché nous a enfermés dans la mort. Adam s'est enfermé dans le mensonge, il s'est caché dans le buisson parce qu'il avait peur. Il avait peur parce que le démon lui a fait croire que Dieu voudrait le punir, que Dieu voudrait se venger. Toute la question, c'est la question qui nous préoccupe pendant le carême, toute la question est d'aider Adam à sortir de son buisson. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour nous faire sortir de ce mensonge ? Pour nous faire sortir de cet enfermement mortel. Dieu agit avec la puissance de son amour. Mais la puissance de son amour, c'est un amour désarmé. Dieu laisse l'homme dans les conséquences de son péché, jusqu'à ce que l'homme prenne conscience de son péché et accepte d'en sortir. L'homme seul, dans sa liberté, peut quitter cet enfermement. Au fond, pendant le carême, nous crions vers Dieu, mais Dieu ne change pas. Dieu est amour. Son amour nous est acquis, définitivement. Un amour sans limite, un amour sans compter. un amour infini. C'est nous qui sommes fermés. C'est nous qui sommes enfermés sur nous-mêmes. L'enfant qui a cassé un vase dans le salon parce qu'il jouait à la balle, au ballon dans le salon alors que c'est interdit, il a cassé un vase précieux qui était sur la cheminée. Maman a demandé le soir qui a cassé le vase. Et c'est personne, forcément c'est personne. Maman a très bien vu que c'était le petit qui est là, parce que son nez s'allonge. Mais maman ne dit rien, elle attend. Elle attend que le petit sorte de son enfermement. Les jours passent et l'enfermement devient terrible, affreux, abominable. Le petit n'en peut plus. Et maman, qui est une bonne éducatrice, patiente, et manifeste à toutes les occasions possibles son amour, son affection, sa tendresse, jusqu'à ce que le petit craque et se jette dans ses bras. Maman ne le grondera pas, elle le serre sur son cœur, parce que l'enfant est enfin sorti de son enfermement. Dieu va manifester son amour et sa tendresse, mais il faut qu'il patiente jusqu'à ce que nous sortions nous-mêmes. Et pendant ce temps-là, le diable nous fait croire que Dieu veut punir. Dieu punirait, mais quelle horreur! Quel est ce Dieu qui punirait? Quel est ce Dieu qui se vengerait? Ça n'est certainement pas le Dieu qui se laisse crucifier, qui se laisse mourir d'amour sur la croix. Oui, le pardon est exigeant, bien sûr, il exige la vérité, mais cette vérité libère, c'est la vérité qui rend libre. C'est une longue bataille que les Hébreux ont expérimentée, que le peuple d'Israël a expérimentée dans sa chair. Ils ont fait l'expérience historique de cet enfermement dans l'esclavage en Égypte. En Égypte, c'est la tyrannie du rendement, la tyrannie de l'efficacité, la tyrannie du tyran qui écrase, qui opprime. Et tout cela parce que les Hébreux avaient oublié Dieu, parce que les Hébreux s'étaient éloignés de Dieu devant la prospérité, la richesse de leur réussite. Dieu devenait inutile et les Hébreux s'étaient glorifiés de leur réussite. Alors Dieu va les libérer à main forte et à bras étendus, comme on l'a entendu dans la première lecture. Dieu va libérer son peuple en le faisant traverser à pied sec la mer Rouge. Mais Dieu ne va pas faire entrer son peuple directement en terre promise. Pendant 40 ans au désert, la longue pédagogie de Dieu va apprendre au peuple la présence de Dieu, va apprendre au peuple l'adoration de Dieu, l'adoration du seul vrai Dieu. Le peuple doit apprendre la miséricorde de Dieu par l'aveu de sa faute. Le désert, c'est le lieu du combat. C'est vrai, c'est rude le désert. C'est aussi le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu où Dieu manifeste sa présence, manifeste sa miséricorde. Avec le carême, nous voilà au désert pour 40 jours. Dans ce lieu de combat, mais c'est le lieu de la présence où nous retrouverons, si nous le voulons bien, la vraie présence de Dieu. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous l'affirme, et c'est une consolation infinie pour nous, Jésus nous précède au désert. Jésus nous attend là pour nous apprendre la vraie bataille. Après son baptême dans le Jourdain, il a traversé symboliquement le Jourdain comme les Hébreux avaient traversé symboliquement la mer Rouge à pied sec. C'est la préfiguration déjà de la traversée de la mort. L'Esprit le conduit au désert. Il est rempli d'Esprit Saint et l'Esprit le conduit, le guide. Et là, il affronte le tentateur. C'est fou quand même de penser que Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, accepte de descendre jusqu'au fond de l'abîme de la bataille avec le tentateur Pendant 40 jours, il affronte le diable. C'est insensé d'ailleurs de penser que le diable, qui connaît Dieu, le diable qui sait qui est Jésus, se permet de tenter Jésus, alors qu'il sait qu'il est vaincu déjà. Mais l'orgueil l'aveugle au point qu'il essaie encore et encore de tenter le Seigneur. Jésus, lui, y va avec la puissance de sa vulnérabilité. Il affronte le tentateur à main nue. Jésus est désarmé. Lui qui était de condition divine n'a pas retenu le rang qu'il légalait à Dieu. Il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur, en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Et voilà, voilà la clé. Il se fait obéissant au Seigneur. Devant les trois grandes tentations fondamentales que lui propose Satan, Jésus se réfugie dans la parole de Dieu. Les trois tentations sont finalement des tentations de puissance. Puissance de domination, domination pour satisfaire par nous-mêmes les besoins naturels de notre vie. Tentation de la puissance, du pouvoir, tentation de la possession. Nous aimerions tellement dominer le monde, nous aimerions tellement dominer. Je ne pense pas qu'on ait tellement la tentation d'aller se jeter de la tour Eiffel ou du haut du temple, mais dominer sur la vie. Dominer la météo, dominer les guerres, dominer les tyrans, dominer. On aimerait dominer et se faire plus fort que les tyrans. Jésus va vaincre par sa vulnérabilité. Jésus n'entre pas en dialogue avec le démon, jamais. Il répond par la parole d'amour, la parole de son Père, cette parole qui avait résonné, que tout le monde avait entendu au moment où Jésus était remonté du Jourdain. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » C'est cette parole du Père dans laquelle se réfugie le Fils. Il est dans la dépendance totale par rapport à son Père. C'est ça le terrible mensonge du diable, le mensonge d'origine, le mensonge qui est le piège fatal. Satan nous fait croire que c'est par l'indépendance que nous serons libres. Quand je serai indépendant de Dieu, je ne veux dépendre de personne. Mais c'est faux, c'est absolument faux. En me faisant indépendant, en ne dépendant plus de personne, je suis seul, absolument seul. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je suis incapable de vivre seul. Regardez les petits-enfants, les nourrissons. Le nourrisson qui est dans les bras de sa mère, il est dans un bonheur parfait, parce qu'il est dans la dépendance totale par rapport à sa mère. C'est troublant comme le petit-enfant, tout petit, très rapidement, et c'est très déroutant pour des parents, de découvrir que l'enfant, très rapidement, va vouloir échapper à ses parents. Non, moi, tout seul. Ah. Et quand tu seras grand et que tu seras indépendant, il faudra apprendre à redevenir comme un petit enfant et à redevenir dépendant. C'est pour ça que les vieux sont dépendants. Parce que c'est l'école d'amour. Parce que c'est l'école de la vraie liberté. Comme c'est difficile, quand on a cru être indépendant, de retrouver la vraie dépendance. Mais c'est la même chose pour les amoureux. Regardez les amoureux qui préparent leur mariage. Ils sont fous amoureux, ils sont terriblement dépendants l'un de l'autre. Ils ne peuvent plus rien faire l'un sans l'autre, parce qu'ils s'aiment. C'est une dépendance d'amour, mais qui les rend libres, ils ont des ailes. Et petit à petit, à mesure que le mariage s'avance dans les années, on devient un peu indépendant, on a installé chacun sa vie. Et on entend parfois des vieux mariés dire « Oh, ben, je sais pas, il fait sa vie, c'est sa vie. » On voit aussi des vieux mariés qui s'aiment dans une dépendance tellement plus belle encore que quand elle était toute neuve, parce que c'est une dépendance de tendresse, une dépendance souriante. Jésus est dans la parfaite dépendance par rapport à son Père, une dépendance qui le rend libre parce que c'est une dépendance d'amour. Le diable, ayant épuisé toutes les formes de tentation, se retire jusqu'au moment fixé. C'est quoi le moment fixé ? dont parle l'Évangile, c'est évidemment le calvaire. Si tu es Dieu, descends de la croix, à ce moment-là on croira. Tu en as sauvé d'autres, et bien sauve-toi toi-même et sauve-nous avec, dit le mauvais larron qui est à sa gauche. Tu ne vois pas que pour nous c'est justice, dira le bon larron. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, le combat de la dernière heure, la réponse de Jésus, c'est sa prière. Encore la parole de Dieu qui est dans son cœur et sur sa bouche. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le désarmement de Jésus, la vulnérabilité de Jésus devient totale. Dépendance absolue jusqu'à la mort. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais Jésus est libre parce qu'il meurt par amour. Il ne meurt pas parce qu'on le tue, il meurt parce qu'il donne sa vie. Tout est renversé. Tout est renversé. Mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas facile de voir l'unité des trois textes aujourd'hui qui nous sont proposés par la liturgie. Regardez-les bien, relisez-les. Les trois textes nous proposent une profession de foi, une confession de la foi. Le Deutéronome, quand tu offriras ton offrande, quand tu déposeras ton offrande devant Dieu, rappelle-toi, tu proclameras ta foi, tu confesseras ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce qu'il a fait de grandes choses, il a fait des merveilles, il t'a libéré de l'esclavage par son amour. L'Épître aux Romains, que dit l'Écriture ? La parole est dans ton cœur, tout près de toi, elle est dans ta bouche. Ah, vraiment ? Est-ce que la parole est dans ta bouche ? Est-ce que la parole est dans ton cœur ? Peut-être que le carême consiste à désencombrer le cœur, à désencombrer la bouche, pour que la parole de Dieu y prenne vraiment toute sa place. C'est ça le sens du jeûne. Jeûner pour faire de la place. Jeûner de ce qui m'encombre, même peut-être un peu jeûner de ce qui est nécessaire, mais moins nécessaire que la parole de Dieu. Si de ta bouche tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu le Père l'a libéré de la mort et l'a ressuscité, alors tu es sauvé. Tu es sauvé pourquoi ? Parce que tu adhères à cette parole qui est une parole de vie. C'est parce que tu quittes la parole de vie que tu es mort. Si tu retournes dans la parole de vie, si cette parole de vie prend chair en toi, alors tu es sauvé. Ces jours-ci, nous sommes un peu écrasés par les malheurs du monde. Nous sommes un peu écrasés d'angoisse même peut-être devant la tragédie que le monde est en train de vivre, dont personne ne peut dire où elle nous emmène. Sentons bien que cette fois, ce sont les équilibres profonds du monde qui sont en réalité des équilibres tellement précaires. Nous le savions, mais nous ne savions pas à quel point ils étaient fragiles. Ces équilibres sont en train de voler en éclats, au même moment que les batailles politiques font rage. Puisque Dieu domine tout, il pourrait quand même dominer le mal. Il pourrait supprimer le mal. Mais non, Dieu laisse l'homme dans les conséquences de son péché. Les conséquences du péché, c'est la guerre, sous toutes ses formes. Oui, le tyran est terrible, mais est-ce que notre illusion de confort n'est pas plus terrible encore, ou au moins aussi terrible ? Est-ce que nos fausses armes, nos fausses protections, nos fausses richesses ne sont pas terribles ? Ne sont-elles pas terribles parce qu'elles sont une illusion formidable ? Nos richesses ne nous sauveront pas de la mort, notre confort ne nous sauvera pas de la mort. Au jardin, Adam et Ève ont perdu la vie parce qu'ils ont chassé la parole. La seule manière de sauver le monde, c'est retrouver la parole d'amour. C'est un combat formidable, un immense combat. Nous n'avons pas les mêmes armes que les autres. Notre arme à nous, c'est la dépendance d'amour dans laquelle il nous faut retourner. Mais nous ne menons pas cette bataille tout seuls. Nous menons cette bataille en église, en paroisse, en famille. Tous ensemble, serrons-nous les uns contre les autres pour être plus forts. Nous le redisons à chaque messe. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Seuls, nous ne sommes rien. Ensemble, les uns avec les autres, les uns tout contre les autres, nous sommes forts, nous devenons tout-puissants. L'Église a vaincu le monde, puisque l'Église, c'est le corps du Christ. Réfugions-nous dans le oui de Marie. Marie se livre à la parole, alors la parole se livre à elle. La parole se fait chair en elle. Il y va du salut du monde, il y va de la gloire de Dieu. Si nous accueillons cette parole pour qu'elle prenne chair en nous, alors le monde pourra croire vraiment que Dieu est amour. Si nous, les chrétiens, sommes comme les autres, comment le monde saura-t-il que Dieu est amour ? Comment le monde saura-t-il que Dieu est victorieux ? Nous le croyons, il est victorieux, mais pas à la manière des hommes, pas par les armes. Par l'amour. Amen.